podcasts de Radio Vatican.
Vous êtes un instrument précieux de l'esprit pour cheminer avec les autres frères chrétiens. C'est le message adressé par le pape François aux participants au Jubilé d'or du renouveau charismatique catholique, un 50e anniversaire célébré à Rome du 31 mai au 4 juin. Quelques 30 000 participants représentant près de 130 pays sont attendus à Rome ce week-end à l'occasion de cet événement, un événement auquel participent des représentants évangéliques et pentecôtistes. Parmi les différents mouvements présents à Rome, des membres des foyers de charité, dont Honorine Grasset. Engagée depuis 13 ans dans les foyers de charité, elle évoque le chemin parcouru.
Aujourd'hui, l'enjeu, c'est peut-être, comme le disait le pape, le renouveau n'est pas tant un mouvement qu'une grâce pour l'Église tout entière. Et c'est vrai que les foyers de charité ont vraiment cette mission d'accueillir tous ceux qu'ils souhaitent pour une retraite spirituelle, pour qu'après ils repartent dans leur paroisse, dans leur diocèse, dans leur lieu de vie, pour eux-mêmes, d'une certaine manière, faire vivre cette nouvelle Pentecôte, un peu allumer le feu de l'amour là où ils sont. Et donc ce n'est pas tant d'être entre soi que de pouvoir ensuite être des vrais disciples missionnaires partout où on est appelé à vivre.
C'est l'Esprit Saint qui ouvre à la vie communautaire ?
L'Esprit Saint, il est l'âme et le souffle d'une vie communautaire. Quand on est membre des foyers de charité, on a cet appel effectivement à vivre ensemble. Donc il y a des prêtres et des laïcs. Parmi ces laïcs, il y a des hommes et des femmes, des célibataires consacrés et des couples. Et cette vie commune, on l'expérimente tous, elle n'est possible que si l'Esprit Saint d'abord nous unit et puis nous réunit. On a besoin sans cesse aussi de se pardonner. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de vivre ce pardon. Et puis pour être vraiment dans cette dynamique d'évangélisation, pour sans cesse faire du nouveau à partir d'un charisme qui a été reçu, c'est bien l'Esprit Saint qui nous conduit.
Jusqu'au temps du Concile, le Saint-Esprit était le Dieu inconnu, pour reprendre les mots de Benoît XVI. Il est aujourd'hui au cœur de ce jubilé, protagoniste.
Oui, cet Esprit Saint, on l'a certainement redécouvert au moment du Concile et dans ces années qui viennent de s'écouler. Et l'Esprit Saint, en même temps, nous conduit au Père. Et ce dont on se rend compte de plus en plus, le Père Cantalamessa en a parlé de nombreuses fois dans ses prédications, c'est que l'Esprit Saint nous fait vivre plus profondément notre vie filiale avec le visage d'un Dieu Père qui est bonté, qui est tendresse, qui est compatissant. Et je pense que l'expérience d'une retraite spirituelle aussi dans un foyer, c'est revenir au cœur de la foi, découvrir la beauté de la foi chrétienne, puisque c'est un temps de formation, un temps d'intimité avec Dieu, mais aussi de formation. Et ça donne une cohérence de la foi dont on a besoin aujourd'hui.
Nous sommes habitués, dans nos sociétés, en France notamment, à vivre la relation avec Dieu de manière spirituelle, intellectuelle. Au sein du renouveau, cette rencontre est existentielle, elle est aussi corporelle, émotionnelle.
L'émotion, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est-à-dire que on est l'anthropologie chrétienne, hein, vraiment nous montre que notre cœur, notre âme, notre esprit, c'est tout cela qui est impliqué dans la relation avec Dieu. Peut-être qu'en Occident, on a été habitué à une relation très intellectuelle. Et une des grâces du renouveau, c'est de nous faire découvrir tout simplement ce que les psaumes nous appellent à vivre. Élever les mains, louer le Seigneur, exprimer une joie peut-être plus extérieure, mais qui conduit sans cesse. La louange nous conduit à l'adoration. La louange nous conduit à contempler, à adorer celui qui est Dieu et nous conduit à mieux aimer nos frères et mieux nous engager. Donc tout ça, ça conduit à une unification de la foi et de l'être chrétien.
Si les mouvements ont donné une nouvelle impulsion à l'évangélisation, ils ont aussi parfois créé une certaine méfiance, voire hostilité, face à un élan incontrôlable, face à la multiplicité des charismes. Vous le comprenez ?
Je pense que pour toute communauté, quand on regarde l'histoire de l'Église et la floraison des communautés au Moyen-Âge, par exemple, il y a toujours ce moment où l'Esprit-Saint suscite parfois des choses nouvelles, et puis où le charisme et l'institution doivent se réunir. Ça prend toujours du temps. Il y a aussi un moment parfois où on est émondé. Et ce sont des étapes bien naturelles dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire d'une communauté. C'est pour ça qu'il y a un dialogue fécond entre ce que des évêques ou la congrégation correspondante peuvent dire. Et c'est en avançant paisiblement, y compris parfois dans les crises, qu'on peut grandir et faire profondément partie du corps de l'Église.
Aujourd'hui, on peut parler d'une certaine maturité grâce notamment au caractère institutionnel qui s'est établi ?
Cette maturité, elle n'est jamais acquise. Je pense que c'est important aussi de se dire que l'Esprit Saint, le Seigneur, nous appelle toujours à avancer au large. Et avec le pape François, le pape nous rappelle qu'il ne faut jamais exister pour la structure. Le but, ce n'est pas l'organisation. Le but, c'est de sortir aussi. Donc si la structure doit parfois se consolider et être plus précise, c'est toujours pour un mouvement missionnaire. Et c'est à ce renouveau du renouveau que nous sommes tous appelés. Et la Pentecôte, elle est maintenant, elle est pour aujourd'hui. Et c'est aussi l'anniversaire de la Pentecôte qu'on fête ce week-end à Rome.
La principale mission des foyers de charité, les retraites spirituelles, vivre l'unité à travers la retraite qui prend modèle sur la famille.
La vie de famille, c'est vraiment c'est la première cellule ecclésiale. Donc une communauté, c'est une vie de famille. Et quand un retraitant vient faire l'expérience d'une retraite, c'est une expérience qui est personnelle, qui est intime. La dimension de silence est essentielle, mais qui n'est pas solitaire. Et la communauté, les membres de foyer sont un peu là pour incarner avec leurs limites, leur pauvreté, leur humanité, cette plénitude de l'amour de Dieu. Et au cœur de la communauté, au cœur d'un foyer, il y a un chemin ainsi de foi, de renouveau, d'intimité avec Dieu qui devient possible. Et on a besoin dans notre monde d'être accueillis dans ces oasis de paix, d'amour et de miséricorde.
C'est une relation à Dieu renouvelée, parfois aussi des conversions.
Bien sûr, il y a de très nombreuses conversions. On a fait une grande étude sur les participants des retraites spirituelles dans le monde à l'occasion des 80 ans des foyers de charité l'année dernière. Et on a bien vu que dans les profils aujourd'hui, il y a bien sûr des catholiques convaincus qui ont besoin de nourrir leur foi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont convertis ou qui veulent faire une démarche intellectuelle de curiosité. Qu'est-ce que c'est que cette foi chrétienne qui semble nourrir d'autres personnes ? La variété des participants ouvre un nombre champ des possibles dans l'expérience d'une retraite.
À l'occasion de ce jubilé, la vénérable Marthe Robin sera à l'honneur dans une exposition. Quel est aujourd'hui l'héritage, l'impact de Marthe Robin dans l'Église ?
Alors bien sûr, l'héritage le plus connu de Marthe Robin, c'est la fondation des foyers de charité. Mais bien au-delà, on voit des dizaines et des dizaines de communautés ou de mouvements qui reconnaissent en Marthe une inspiratrice ou quelqu'un qui a encouragé les fondateurs au moment de la décision de fonder leur mouvement, leur communauté. Je pense au Chemin Neuf, je pense à la communauté de l'Emmanuel, à l'Arche fondée par Jean Vanier. Les Focolari ont eu aussi un lien avec Marthe. Il y a vraiment un nombre assez impressionnant et aujourd'hui encore des communautés dont les fondateurs n'ont pas connu Marthe disent qu'elle est pour eux comme un modèle de la nouvelle évangélisation. Comme Sainte Thérèse a pu l'être, Marthe, sans bouger de sa petite ferme de Châteauneuf de Galaure, puisqu'elle était paralysée, a été un témoin incroyable de l'évangélisation et de l'espérance.
Son charisme, sa figure sont très présents, bien sûr, au cœur de ce jubilé.
C'est une personnalité qui gagne peut-être à être mieux connue parce que son nom souvent a été entendu par nombre de chrétiens, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. On retient qu'elle a été malade, on retient qu'elle a vécu la passion du Christ, qu'elle s'est nourrie uniquement de l'Eucharistie. Mais toute la vie de Marthe est tournée vers le désir de révéler qui est Dieu. Et elle dit à de nombreuses reprises « Je n'ai qu'un désir grand, immense, celui d'aimer et de faire aimer le bon Dieu ». Alors quand on a envie d'évangéliser, quand on a envie d'être témoin, on se dit que quand Marthe, en dépit de sa maladie, en dépit de sa faiblesse, de sa fragilité, nous invite à évangéliser, qui parmi nous peut dire « je suis trop petit, trop malade, trop faible pour évangéliser ». Elle nous invite à sortir de nos certitudes et aller à la rencontre de tous.
Des propos recueillis par Hélène Destombes.